Radio Campus Paris.
Lundi 30 juin 2025, il est 18h42 sur Radio Campus Paris que vous écoutez en FM et sur le web. Et 18h, c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré, La Relève. C'est tous les 15 jours ou presque ces derniers temps où on a eu du mal, 30 minutes pour découvrir de nouveaux talents. Ce soir, on parlera de troubles et de football. Mon invitée, scénariste et réalisatrice, en un mot, elle est cinéaste. Et bien, comme la radio, c'est un art d'improvisation, vous aurez la chronique plus tard. Bonsoir Camille, qui a Perton.
Bonsoir.
Vous êtes... Merci d'être là ce soir. Merci aussi d'avoir supporté mes SMS bizarres. En tout cas, pour moi, j'avais l'impression de vous écrire des SMS bizarres.
Pas du tout.
Du mal à se... Ouais, tant mieux. Vous êtes scénariste, et je viens de le dire, et réalisatrice de Les Arènes, un premier long métrage sorti début mai après un court métrage qui s'appelle Passer les champs. Deux films qui ont un point commun, c'est qu'on y parle football. Ou en tout cas, on y voit du football. Alors pour commencer, j'avais envie de vous demander si vous suivez actuellement la Coupe mondiale des clubs.
Pas du tout.
Ça vous intéresse pas? Vous aimez pas le foot?
J'aime beaucoup le foot, je le regarde encore aujourd'hui, je regarde un peu la Ligue 1, je regarde les matchs internationaux, mais je dois dire que cette Coupe des clubs ne m'interpelle absolument pas. Je crois que ça emmène le foot dans une dimension qui n'est pas la mienne.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le foot?
Moi, j'aime le spectacle, j'aime des émotions assez sincères et qui sont tout à fait intactes quand on va au stade, quand on regarde un match avec des amis, avec de la famille. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un plaisir qu'on retrouve toujours. Voilà. Après, la Coupe des clubs, c'est beaucoup d'argent, c'est d'autres enjeux. Et
ça, on a compris, vous n'aimez pas. Ça, vous n'aimez pas. Mais vous dites, c'est l'ambiance du match, c'est toutes ces choses-là. C'est aussi le plaisir de jouer. Vous aimez jouer, vous? Vous y jouez? Vous y avez déjà joué? Pas du tout?
Non, je joue très mal. Franchement, j'ai été exclue assez rapidement dans la cour de récréation du terrain de foot. Et malheureusement, du coup, ma carrière en a pris un coup.
Sachez-le, moi, j'étais toujours le dernier choisi quand il y avait le moment de faire les équipes. Donc, on a ça en commun. Je vous pose cette question donc, parce que votre film Les Arènes, bien évidemment, se déroule dans le monde du football, mais plutôt côté coulisses. Alors comment on passe d'aimer le jeu, d'aimer l'ambiance, à s'intéresser, à s'intéresser à la coulisse justement?
Moi je crois que c'est vraiment l'arrivée des premiers transferts sur les très jeunes joueurs qui m'a fait entrer dans les coulisses du football, parce que il y a eu comme ça, maintenant il y a une dizaine d'années, des premiers joueurs qui étaient à peine sortis de centre de formation et que les clubs déjà achetaient et misaient des sommes assez importantes sur eux pour les entraîner à venir rejoindre leur équipe. Et ça m'a interpellée, je me suis dit comment est-ce qu'on peut mettre 2 millions, 10, 15, 20 sur un gamin qui a à peine 16 ans. Et de là, j'ai commencé effectivement à lire des choses, à rencontrer des gens, à nourrir comme ça une curiosité d'abord, je crois, tout simplement, pour ces coulisses, pour la financiarisation du monde du foot. Et c'est vraiment la découverte des coulisses, la découverte des personnages qui peuplent ces coulisses et des histoires qui traversent ce milieu qui m'ont donné l'envie d'en faire un film. Donc c'est d'abord une curiosité vraiment toute personnelle et ensuite le potentiel cinégénique de ce milieu qui ont fait naître l'envie de ce film.
Je rebondis sur ce que vous dites parce que vous appréciez l'ambiance du stade, mais en fait vous êtes une âme plus qu'une fan qui va voir le match et avec une banderole ou des gaz lacrymo, des trucs là qui font du bruit, je sais pas comment ça s'appelle. Vous êtes intéressé aux équipes, comment elles sont constituées, quels les entraîneurs. J'imagine vous suivez un peu plus que quelqu'un qui va juste voir des matchs.
Je suis un peu plus, après, par rapport à un supporter de foot classique, moi je suis vraiment ce qu'on appelle une footix, c'est-à-dire que je connais les bases, mais je ne connais pas, je rentre pas vraiment dans le détail, je connais pas par cœur la composition des équipes, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que là j'ai abordé le foot dans une... presque une manière presque plus technique, on va dire, sur la question de l'économie du sport, de la financiarisation, etc. Mais j'ai un espèce de plaisir, malgré tout, intact à regarder un match. Il y a toujours une sorte de magie qui opère au moment où on passe sur la partie sportive.
Je rebondis sur ce que vous disiez juste avant. Vous disiez qu'il y avait il y avait une cinégénie. C'est quoi? C'est de filmer les joueurs qui vous intéressaient? Vous aviez envie de filmer autrement que la télévision, justement? Parce que le foot, il y a assez bien un truc que tout le monde a vu, même moi, c'est un match de foot. Donc quand on est cinéaste, c'est pas un vrai défi, ça, de se dire, il va falloir que je filme ça autrement?
Alors pour le coup, c'est vraiment pas la perspective de filmer le terrain qui m'a donné envie de faire ce film. Et d'ailleurs, dans le film, il n'y a quasiment pas de terrain, il n'y a quasiment pas de sport. Non, c'est vraiment la partie des agents où je retrouve une forme de cinégénie. Parce que dans ces histoires d'agents, c'est souvent c'est un maelstrom tellement de personnages, il y a tellement de typologies de personnages différentes qui gravitent dans ce milieu, que ça crée comme ça des, une dynamique presque un peu mafieuse. Et donc moi, ça faisait appel à ma cinéphilie, aux films avec lesquels j'ai grandi, qui est donc le cinéma, beaucoup le cinéma américain des années 70-80. Et d'un seul coup, il y avait un horizon de cinéma qui se dessinait derrière et puis des personnages extrêmement séduisants, extrêmement charismatiques, parce qu'il faut être sacrément charismatique pour réussir à approcher un joueur, le convaincre qu'on est capable de l'emmener au plus haut, lui faire miroiter des choses, potentiellement aussi y arriver, parce qu'il y en a qui sont extrêmement compétents. Et donc du coup, ces personnages d'agents comme ça, moi, ils m'ont ouvert un imaginaire que j'avais pas forcément projeté et qui était très 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 flatteur pour le cinéma.
Alors on va faire un peu le pitch quand même du film. C'est l'histoire d'un jeune footballeur brillant qui se trouve à un moment clé de sa carrière. Jusque là, c'est son cousin qui gère justement cette carrière. On sent bien que le jeune joueur a envie d'aller plus loin, de progresser, il a de l'ambition. Mais pour ça, il va peut-être devoir quitter sa famille et travailler avec ses professionnels. Moi, je me suis demandé, en fait, à quoi servaient tous ces gens qu'on voit, tous ces intermédiaires en regardant votre film. Parce que finalement, il prend une commission, ça c'est sûr. Il y a ce moment-là où il y a cet échange-là. Mais est-ce que les clubs ne pourraient pas faire ça directement? Est-ce que vous avez compris, c'est pas la question. Mais à quoi ils servent?
En fait, les intermédiaires...
C'est quoi? C'est comme des agents... Pardon, excusez-moi. C'est comme des agents comme les artistes, finalement. Les footballeurs, c'est comme des artistes. Ils ont un agent parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'ils gèrent leur carrière parce qu'ils n'y arrivent pas.
Oui, c'est exactement ça. Les clubs ont des agents, les footballeurs ont des agents et les agents représentent les intérêts des uns et des autres. Et voilà. Et les intermédiaires, donc, qui sont une catégorie plus trouble, on va dire, c'est vraiment ce qu'on appelle les porteurs d'affaires, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui se trouvent au milieu, qui ne représentent pas vraiment le club, qui ne représentent pas vraiment les joueurs, mais qui sont là pour faire la jonction entre le désir de l'un et le désir de l'autre, ou le besoin de l'autre. Effectivement, dans le film, il y a un personnage comme ça qui débarque et qui est rendu extrêmement séduisant par le fait que justement, il n'a pas d'allégeance a priori et que donc du coup, il est là pour finalement mettre en relation tous ses protagonistes.
Oui, puis en vous écoutant, je comprends aussi un truc, c'est qu'il y a quasiment un club de foot dans tous les villages de France. Donc, si on veut repérer les talents, tout le monde ne peut pas être partout à la fois.
Oui, tout à fait.
Donc, il faut qu'il y ait des gens qui repèrent, qui traînent, mais donc qui sont des gens un peu bizarres. Pour faire ce film, à quel point le choix des acteurs était important pour vous? J'ai trouvé qu'ils étaient tous là, bien où ils étaient. Je me dis que vous n'auriez pas pu prendre d'autres acteurs. Alors, il y a Ilyes Kadri qui est le rôle de Brahim, le personnage principal, mais aussi son cousin agent, Sofiane Kames. Sofiane Kames, c'est l'acteur, il s'appelle Mehdi. Puis il y a l'incroyable Edgar, moi je l'ai trouvé incroyable, Edgar Ramirez, qui joue une espèce d'agent, mais qui est surtout un ogre très séduisant. On est presque dans l'univers du conte, là. Oui. Si vous auriez pu le faire avec d'autres acteurs?
On peut toujours imaginer que le film se fasse avec d'autres acteurs et la période de casting, c'est une démonstration permanente qu'il faut se renouveler, il faut renouveler les idées, il faut rebondir. Ouais. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les comédiens que j'avais vraiment imaginé pour les rôles. C'est-à-dire que le rôle de Brahim, donc le jeune joueur, j'ai fait un casting assez long où j'ai vu beaucoup de jeunes, des jeunes professionnels, non professionnels, des jeunes qui venaient du foot, d'autres qui étaient des comédiens. J'ai assez vite remarqué Ilyes Kadri, qui est un garçon qui vraiment cochait toutes les cases d'une certaine manière, qui avait un charme fou et qui pour moi correspondait exactement à l'idée que je me faisais du personnage, c'est-à-dire un garçon assez mûr pour son âge, relativement taciturne, ou en tout cas avec une opacité qui est très intéressante parce que assez...
Très intéressant d'avoir, parce que pendant tout le film on se demande ce qu'il veut lui.
Exactement, et c'est tout ça qui rend le fait de le regarder pendant une heure et demie aussi intéressant. Et puis Sofiane Kames, qui est un acteur extrêmement talentueux, qui amène cette espèce de légèreté et quelque chose de très confortable et en même temps qui a une profondeur hyper intéressante, qui est capable d'être aussi tragique et qui d'ailleurs l'est régulièrement dans le film. Et Edgar Ramirez, en fait, pour moi, il incarne exactement ce personnage qui n'a pas besoin de faire grand-chose pour séduire tout le monde dans la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'il rentre dans la pièce et tout le monde...
Il est comme ça en vrai, vous dites ?
Oui, il est comme ça en vrai, mais il est beaucoup moins... ce n'est pas du tout une personne malveillante, il est extrêmement bienveillant comme garçon. Mais il a cette capacité, effectivement, de charmer de manière hyper naturelle et instinctive. Et il fallait ça pour le personnage. Et puis, je rajouterais juste qu'il y avait une dimension internationale indispensable au casting, parce que le foot est un milieu international et donc j'avais à cœur qu'il y ait des langues différentes, des cultures différentes, des corps différents qui se mélangent dans le film.
Puisque vous parlez de ça, ça me rappelle que j'ai un extrait diffusé qui est la bande-annonce de votre film. On l'écoute maintenant. I believe in this boy. Now is the time to put him in the limelight. That's not
crack. Il colle parfaitement à votre système de jeu.
Tu le veux pas?
Bien sûr que je le veux.
T'as une star ton fils, hein?
Je suis trop content que ça marche bien pour tous les deux.
Francis, le nouveau conseiller d'Ismaïla.
Enchanté. T'as un nouvel agent?
C'est pas un agent lui, c'est un tueur.
Il me semble qu'on avait un deal, vous et moi, qu'Ibrahim soit le prochain à signer. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste.
L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires.
T'as des pays en or, toi? Ils attendent quoi pour te faire monter avec les pros?
Qu'est-ce qu'il a de plus?
Moi.
Personne ne signe de contrat avec Francis. Il a d'autres moyens de tenir ses joueurs.
Un pistolet sur la tempe? Qu'est-ce que tu veux, Ibrahim?
La même chose que toi. Tu viens?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais plus confiance?
Vous me voulez? C'est mon prix.
Jeu très dangereux.
Parfois un joueur veut signer dans un club. Parfois un club désire un joueur. Et parfois ils ignorent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le vrai pouvoir, il est entre celui qui désire et l'objet de son désir.
C'était la bande-annonce des arènes. J'allais appeler le film Les Ogres, je ne sais pas pourquoi. On est toujours avec Camille Perton, la réalisatrice et la scénariste du film. On parlait des acteurs juste avant. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de venir faire un premier film? Et je pense aussi bien aux acteurs déjà connus qu'à des acteurs moins connus qui ont peut-être envie. Enfin, qui ont peut-être envie d'aller dans des films d'auteurs qui ont déjà une œuvre, est-ce que c'est compliqué?
Non, je dois dire que j'ai pas vraiment rencontré de résistance de la part des comédiens et je pense que de ce point de vue-là, pour un premier film, le scénario est très important et je crois qu'il y avait dans chaque rôle quelque chose à défendre pour les acteurs. Et ça, c'est super important, je pense, pour eux de savoir que voilà, ils vont avoir une partition à jouer et. Non, j'ai pas vraiment eu de difficulté à les convaincre. Ils se sont glissés dans les personnages avec beaucoup de facilité.
C'est un film qui parle aussi d'une famille. Le jeune Brahim est très soutenu, très aimé par sa famille. Il rêve que d'une chose, c'est de construire une maison pour eux. Il y a le moment où aussi il doit quitter sa famille. Il est à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense aussi à votre court-métrage. C'est visiblement un sujet qui vous intéresse parce que c'est aussi quelqu'un qui va devoir quitter sa famille, dont je parlais tout à l'heure et dont le titre m'échappe. Je sais qu'il y a chant dedans, mais
Passer les
chants. Est-ce que c'est un moment qui vous intéresse, vous, enfin, en tant que créatrice, bien sûr, ce lien à la famille, cet endroit où on est bien, où en même temps on a envie dont il faut bien partir un jour.
Ouais, je crois que en tout cas, pour ce qui est des arènes, ça m'intéresse de parler de personnes qui ont des responsabilités très tôt et de qu'est-ce que ça détruit de l'enfance, qu'est-ce que ça abîme aussi d'une certaine insouciance de devoir être en responsabilité très tôt et de pas pouvoir profiter comme les autres de la légèreté qu'offre la jeunesse et le fait d'avoir une famille qui s'occupe de vous. Quand on est un jeune footballeur, on représente l'opportunité pour toute une famille de s'élever socialement d'une manière absolument fulgurante et inédite. Et donc, je crois que c'est à la fois une immense chance et aussi une responsabilité qu'on a du mal à mesurer. Et moi, j'ai pu le mesurer au contact de ces jeunes que j'ai croisés pendant l'écriture, dans les centres de formation notamment. Et c'est fou de voir le décalage et la maturité un peu déconcertante que ces garçons ont.
Là, il y a l'obsession d'une maison de laquelle on domine la ville de Lyon. Et alors, il y a cette maison, mais il y a aussi... vous en avez parlé, la financiarisation du football. Mm-hmm. On pourrait parler d'une critique du capitalisme, de la finance. C'est un film sur le désir, en fait. Tout le monde dans ce film est mu par ça. Enfin, en même temps, on est tous dans la vie mus par nos désirs. Mais en tout cas, dans ce film, c'est particulièrement frappant. Les jeunes hommes veulent gagner, faire une carrière, de l'argent, mais il y a aussi le désir sexuel des intermédiaires. J'avais l'impression que finalement, dans votre film, c'était le désir qui circulait plus que le ballon. J'ai trouvé cette formule un peu grossière, mais il y a de ça aussi.
C'est tout à fait vrai.
Je me suis même demandé si, j'aurais bien aimé le revoir, si on le revoit, si de scène en scène, c'est pas construit sur le désir des uns et des autres à chaque fois.
C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui pousse ce jeune garçon vers l'extérieur, c'est pas du tout un rejet de sa famille, ou c'est vraiment, il est mu par une rencontre, il est mu mu par effectivement le désir de nouveaux horizons, quel qu'il soit, parce que c'est un désir qui est par ailleurs protéiforme, qui n'est pas un désir uniquement charnel ou qui n'est pas un désir uniquement d'argent.
Bien sûr, ouais,
c'est un désir qui d'un seul coup se matérialise dans, dans l'apparition de cet homme, donc Francis, qui incarne toutes sortes d'horizons désirables, et il donne envie de le suivre, et effectivement c'est lui qui attire ce jeune garçon vers l'extérieur. Et moi, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant, notamment dans un groupe quasiment exclusivement masculin, de faire circuler autre chose que de la conflictualité, mais de d'imaginer que ces hommes peuvent être mus par un désir commun.
Et d'ailleurs, il y a une scène où ils font un calendrier. D'ailleurs un truc.
J'avais pas le calendrier, je pensais au calendrier de l'avant.
Oui,
tout à fait.
J'étais
vous
pas
pensez aux dieux du stade.
Oui, parlons plutôt les dieux du stade. Ils font une sorte de calendrier dans des arènes, si je me souviens bien.
Oui, en tout cas, c'est une manière de parler, encore une fois, de faire un pas de côté par rapport à la représentation classique du foot et de montrer que ces jeunes garçons, même s'ils sont très jeunes, ils sont déjà sexualisés et leur corps est un argument de vente. Et on le vend comme on vend le reste. Et effectivement, les clubs sont toujours un peu dans leur manière de... n'assument pas tout à fait en réalité la marchandisation du corps, alors qu'en fait, ils font poser les joueurs dans des vestiaires pour des pubs Nivea et que bien sûr que des beaux corps musclés de jeunes footballeurs, ça fait partie de ce qu'ils vendent, quoi.
Est-ce que vous, en tant que femme cinéaste, vous êtes demandé comment vous alliez filmer ces corps? Est-ce que c'était un problème pour vous?
Ça n'a pas du tout été un problème pour moi de les filmer et de les présenter comme des sujets désirables. Par contre, je crois que, mais naturellement, j'ai vraiment beaucoup cherché à les associer à toutes les scènes dans lesquelles ils étaient dénudés, et on a répété ces scènes. Je leur ai expliqué, j'ai formulé les choses de manière extrêmement limpide sur ce que la caméra allait chercher à montrer, et ça a donné du coup une scène très ludique à tourner, parce que du coup ils étaient tout à fait complices et partenaires de ce qu'on essayait de provoquer en termes d'effets à la fois assez sexualisé et en même temps un peu comique, parce que
là, c'est ça. De la scène du
Bureau, je suis toujours là-dessus, ouais. Parce que c'est le moment où on met le plus en avant les corps dans le film. Et du coup, moi, en tout cas, je me situe à cet endroit-là.
On va écouter un peu de musique et puis on se retrouve tout de suite après. Je suis Camille Perton, vous êtes la réalisatrice et la scénariste du film Les Arènes.
Thank you.
Lost Again, Dépêche Mode sur Radio Campus Paris. Voilà, et avant de continuer cette émission, que feriez-vous si vous étiez une mère de famille nombreuse vivant à Montréal et devant déménager alors que votre mari n'a pas de travail et que sa dernière idée pour réussir lui a valu un nouveau licenciement? Tel pourrait être le mauvais résumé d'un roman publié en 45 au Québec et qui vaudra à son autrice d'être la première canadienne à obtenir le prix Femina Paris. Elle s'appelle Gabrielle Roy et son roman s'appelle Bonheur d'occasion, un titre que je trouve magnifique. Bonheur d'occasion, c'est le roman de la débrouille des quelques membres de cette famille dans les années 40, alors que les effets de la grande crise des années 30 se font encore sentir. Le père de famille, Lazarus, donc, peine à trouver du travail. Les secours apportés par le gouvernement ont été coupés. Rosa Anna, son épouse, fait tenir le ménage et la famille tant bien que mal. Juste pour vous donner une idée, à l'époque, les gens sont si pauvres que les enfants dorment sur des chaises le soir venu dans un logement qu'on imagine par ailleurs pas très bien chauffé. Florentine, l'aînée des filles, travaille comme serveuse pour aider à la famille. Elle aimerait bien ne pas avoir la même vie que sa mère, mais elle tombe amoureuse de Jean, un ambitieux bien peu sympathique. Et pendant ce temps-là, un de ses frères décide de s'engager pour la Deuxième Guerre mondiale. Vous l'avez compris, tel que je vous le raconte, ça sonne un peu comme un gros mélodrame. Et d'une certaine façon, oui, c'est ça, c'est un mélodrame. Si on appelle mélodrame la matière humaine qui fait de la vie des petites gens... Si on appelle mélodrame la matière humaine, pardon, qui fait la vie des petites gens, quand les rois et les dieux ont le droit, eux, à la tragédie. Mais c'est un mélodrame de grande classe. Il y a toute la beauté d'abord... des dialogues écrits dans la langue fleurie et parlés par cette classe populaire québécoise. Il y a toute la finesse psychologique de Gabrielle Roy qui donne sa chance à tous ses personnages, décortiquant leurs états d'âme, cherchant toujours à les comprendre, jamais à les juger et ne les prenant jamais de haut. Et puis il y a ce talent de l'autrice pour mêler l'histoire intime d'une famille et la grande histoire. Pour ma part, je n'avais jamais rien lu sur la Seconde Guerre mondiale vue du Canada et j'avoue que ce livre m'a bouleversé pour ce que j'en ai appris. Pour finir, je citerai une interview de Gabrielle Roy que je mettrai sur la page de Radio Campus Paris rubrique La Relève, qui dans une interview disait qu'on ait pu faire dans la paix pour les hommes ce qu'on a... Alors c'est compliqué parce que comme c'est du style oral et parlé, il faut que je le dise bien. Qu'on n'ait pas pu faire, dans la paix pour les hommes ce qu'on peut pour la guerre, cela m'a rendu d'une telle indignation que j'ai eu un désir ardent de l'exprimer à travers des personnages. L'indignation fut le moteur de Bonheur d'occasion. J'en profite au passage pour saluer Kev Lambert qui m'avait donné ce très bon conseil de lecture dont je conseille tous les romans. Voilà, Bonheur d'occasion, c'est de Gabrielle Roy et c'est publié aux éditions de l'Olivier. Voilà. C'était la chronique de début qui n'est plus au début, mais c'est pas grave, on est toujours avec Camille Perton, réalisatrice du film Misérable. Vous avez envie de lire Bonheur d'occasion?
Ça m'a donné vraiment extrêmement envie et j'aime beaucoup la distinction mélodrame-tragédie que vous avez proposée.
Vous êtes un peu dans une tragédie.
C'est un peu une tragédie. Plus dans une tragédie, ouais.
Vous aimez les grands sentiments, le fatum, quoi, le destin dans la tragédie.
Ouais, je trouve ça beau et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de principe dans le film qui fait qu'on commence avec tous les personnages et qu'on sait que les choses vont se nouer entre eux et que l'histoire est presque déjà écrite.
Alors, on sait très peu de choses de vous en préparant cette émission. J'ai pas trouvé grand-chose. C'est pas pour me déplaire, c'est pour ça que j'adore faire cette émission avec des gens qui commencent parce qu'on trouve rien sur eux. Vous avez toujours voulu être cinéaste ?
J'ai voulu être beaucoup de choses, mais avec sérieux, oui, je crois que j'ai depuis longtemps envie de faire du cinéma.
Vous vous rappelez d'à quel âge vous avez eu envie de faire du... Est-ce que faire du cinéma, c'est d'abord vouloir être actrice? Été réalisatrice?
Moi, j'ai jamais vraiment voulu être actrice et je suis vraiment... J'ai absolument aucune espèce de talent en la matière. Je pense que c'est un désir un peu adulte de vouloir faire du cinéma parce que quand on est adolescent, enfant, on ne projette pas vraiment en fait, qu'il y a des gens derrière une caméra et qui fabrique des films. En tout cas, moi, je ne l'ai pas su très tôt. Donc, en fait, c'est arrivé, je pense, au lycée quand je me suis inscrite en option cinéma dans le lycée où j'étais à Valence, à Camus Vernet, et où j'ai découvert ce que c'est que de fabriquer un film. En fait, on nous a mis des caméras entre les mains et on nous a dit, voilà, vous allez faire des mini-films, des choses comme ça. Et c'est vraiment le fait de fabriquer les films qui m'a mis sur cette voie. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire un film? C'est de créer un univers complet?
Il y a quelque chose comme ça, effectivement, qui est presque plus dans l'écriture encore, le fait de créer un univers, je trouve presque plus ce plaisir dans l'écriture. Je trouve que derrière la caméra, dans la fabrication, ce que j'ai découvert vraiment, c'est le fait de pouvoir susciter des sensations, susciter des émotions.
Savoir provoquer des émotions.
Ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait magique à pouvoir amener cette chose-là. Moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours été très reconnaissante envers le cinéma de m'amener à ressentir du désir, de la peur, d'arriver à créer cette chose-là, cette stimulation. Je trouvais ça fou. Et le fait de pouvoir transmettre ça, ce plaisir qu'on amène aux spectateurs, je trouve ça fabuleux.
Donc tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, que je vous ai dit que quand j'ai vu votre court-métrage qui est disponible, il faut que je le dise d'ailleurs, sur la plateforme...
Univers Ciné.
Ouais, Univers Court. Ouais, bon. Univers Court, dont on trouve une chaîne sur YouTube, et que je vous ai dit que ça m'avait bouleversé le dernier plan. Là, sans le savoir, je vous ai juste dit ce que vous vouliez faire.
Oui, alors après, c'est pas du tout un plaisir mégalomaniaque, non. Vraiment quelque chose de l'ordre de la... Bien sûr, non, mais c'est quelque chose, pour moi, de l'ordre du partage. C'est-à-dire qu'on essaye de transmettre, en fait, tout simplement, une émotion par laquelle on a été probablement traversé soi-même. Et c'est assez magique de réussir à la convoquer chez les autres. Mais il s'agit pas, effectivement, de chercher à provoquer les gens.
Oui, c'est pas de la manipulation.
Non.
Quels sont les cinéastes que vous admirez? Vous avez parlé tout à l'heure du cinéma des années 70. Moi, en voyant votre film, j'ai beaucoup pensé à James Gray.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que ce film a quelque chose de Little, votre film a quelque chose de Little Odessa où il n'y a pas de footballeur, il n'y a que des truands russes, une mère qui meurt. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a quelque chose d'une espèce de faux calme apparent.
Oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le cinéma de James Gray, même si je trouve qu'il est parfois presque un peu didactique et en maîtrise. Moi, j'aime bien des cinéastes. Peut-être que mon cinéma est trop didactique et trop en maîtrise, mais en tout cas, moi, j'aime bien des cinéastes qui bousculent encore plus les choses. Et je pense que pour le coup, on aime les mêmes cinéastes avec James Gray. Et je pense, par exemple, parce que j'ai revu ses films récemment, mais à Michael Cimino, L'année du Dragon,
quoi,
par exemple. L'année du Dragon, je trouve que c'est un film absolument passionnant. Non, mais moi j'aime aussi beaucoup Sidney Lumet. Je trouve que c'est un cinéaste qui s'est filmé à la fois quelque chose de romanesque et en même temps quelque chose de très social, de très ancré dans une réalité. Évidemment, pour les arènes, j'ai beaucoup pensé aux Parrains parce que c'est un film dans lequel on rêve un peu les mafieux, c'est-à-dire qu'on les montre beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en réalité.
On peut dire que les agents ils sont pas aussi beaux que Edgar.
Non, clairement pas.
On va croire que je suis une fixation sur lui.
Clairement pas. Je crois que vraiment Edgar peut faire rêver beaucoup d'agents.
Ah bah, en vrai, c'est vraiment pas cet univers-là. Est-ce que par ailleurs vous aviez des, enfin plutôt pour écrire ce livre, enfin pour écrire ce film, pour faire ce film, ouais, vous avez revu des films, vous avez relu des choses, parce qu'il n'y a pas des films sur le football, il n'y en a pas tant que ça. Et je pense à un film avec Patrick Devers, mais qui est à mort l'arbitre, je crois, peut-être. Coup de tête, oui, peut-être. À mort l'arbitre, c'est autre chose.
Non, j'ai pas vraiment, enfin j'ai évidemment, si dans un premier temps j'ai d'abord vu tous les films qui avaient été faits sur l'univers du football, mais le film n'étant pas réellement sur le football, en fait c'était pas des références pertinente pour moi. Donc en fait,
vraiment fait un film de mafia.
Voilà, exactement. Moi, j'ai plutôt regardé des films de genre plutôt que regarder des films de foot. Et effectivement, de ce point de vue-là, beaucoup de films américains, mais aussi, je pense par exemple au Saint-Laurent de Bertrand Bonello, qui est un film que je trouve vraiment passionnant sur la marchandisation de la mode, en l'occurrence. Et je trouve très intéressant le rapport avec Pierre Berger. Enfin voilà, je trouve que un film comme ça,
c'est évident maintenant que vous le dites,
m'a beaucoup influencé.
De filmer d'une façon un peu très lente, très...
Il y a quelque chose
dans la durée.
Absolument.
Dans la durée, oui. Ah oui, d'accord.
Il y a une sorte de langueur un peu dans la manière qu'il a de filmer qui m'a tout à fait inspirée. Et c'est marrant parce que avec la mort de David Lynch, j'ai revu Mulholland Drive récemment et je me suis redit à quel point ce film m'a marqué, je pense, à jamais et impacte beaucoup. Et on peut le retrouver beaucoup dans les arènes en réalité.
Vous pensez déjà au film suivant?
Oui, je suis en train de l'écrire actuellement, oui.
Celui-là, là, c'est fini, vous...
Les arènes, bah, il va sortir en VOD, il va sortir sur Canal Plus à l'automne, donc il va y avoir une deuxième vie maintenant sur le petit écran. Il est encore un peu en salle, si vous le cherchez bien. Maintenant, j'écris le deuxième, ouais.
Il y aura du football?
Non, il n'y aura pas de football dans le deuxième. Il y aura des questions d'argent et de classe sociale encore, mais pas de football.
C'est fini? Vous en avez fini avec le football ou...
Sincèrement, si on me donne l'opportunité de refaire des choses là-dessus, je continuerai parce que je trouve qu'il y a encore énormément de choses à raconter, notamment de géopolitique, parce que j'en parle assez peu. Mais c'est aujourd'hui un milieu qui brasse énormément de questions géostratégiques.
Les gens qui nous feront confiance et qui iront voir le film, soit là en salle, soit plus tard, verront qu'il y a une fin qui est un peu géopolitique, mais on ne dira rien.
C'est vrai. C'est vrai.
On découvrira des liens étonnants à la fin de votre film.
On voyage.
En tout cas, peut-être que, parce qu'en vous écoutant, je me demandais pourquoi il y avait si peu de films sur le football alors que c'est un sport, c'est une activité très populaire. C'est peut-être parce qu'on croit trop la connaître finalement. et que finalement on reste attiré par tout ce qu'on voit tout le temps.
Ouais.
Et alors, qu'il y a une face sombre finalement comme la lune, il y a une face cachée qu'on ne va pas voir.
Il y a ça et il y a le fait que le football au cinéma a extrêmement mauvaise réputation et malheureusement mon film ne fera pas mentir cette réalité, c'est que les spectateurs de cinéma ne vont pas voir les films sur le football et que les spectateurs de foot ne vont pas au cinéma. Donc il y a un endroit de rencontre qui se fait assez mal. Mais moi je pense que c'est vraiment une erreur, je continue de croire vraiment que tous les spectateurs ont intérêt à s'intéresser au milieu du foot, parce que le foot en soi, c'est, on parle pas de sport, encore une fois, on parle du milieu et on parle de la financiarisation, parce que ça pose des questions de la place de l'argent dans nos vies, de la place du capitalisme, c'est des questions qui touchent tout le monde et ça mérite qu'on s'y intéresse.
En conclusion, je dirais que moi, vous avez fait un film balzacien, j'espère que ça fera peur à personne, parce que c'est vraiment une version 2025 du mythe de Rastignac qui rencontre Vautrin, qui lui offre peut-être la puissance, mais il y a un prix à payer et il y a toujours un prix à payer, c'est mon côté moraliste, alors on va le retirer tout de suite, mais il y a parfois un prix à payer pour réaliser ses rêves. Moi je tiens à vous dire par ailleurs que vous avez réussi un miracle, parce que je crois que j'ai jamais vu un match de foot en entier. J'ai été voir votre film et j'ai trouvé passionnant du début à la fin.
Merci beaucoup.
Je conseille à tout le monde d'y aller. Merci beaucoup d'être venu Camille.
Merci infiniment de m'avoir reçu.
Vous êtes réalisatrice du film Les Arènes et vous lisez les SMS bizarres, je maintiens. Voilà, c'était La Relève, elle a été préparée et présentée par Christophe, la réalisation était assurée par Delila. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Si tout va bien, on se retrouve le 14 juillet pour une dernière de la saison. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, au revoir.